Déjà, je me suis retrouvé quasiment à la sortie de l'école sur un poste d'ingénieur, alors que j'étais pas du tout ingénieur. Je suis passé de je veux être développeur à directement en fait responsable de développeur. C'est une structure qui était assez indépendante à l'époque. Et donc, quand ils se disaient « Ah tiens, il y a l'Apple TV, qu'est-ce qu'on fait ?»« Bah tiens, on lance une app. » Bah hop, ils lançaient une app. Je faisais 1 à 2 heures de code par jour, le matin, le soir, quand je pouvais, pour aboutir finalement à me retrouver avec 2 boîtes qui voulaient me recruter, dont Molotov.
Bienvenue sur le podcast Développeur Libre, dans lequel j'accueille chaque semaine une personne inspirante qui est devenue libre grâce au code. Alors bien sûr, on a chacun notre propre définition de la liberté, et c'est pour ça que dans ce podcast, je reçois aussi bien des entrepreneurs que des digital nomades qui parcourent le monde tout en travaillant, ou encore des salariés qui se construisent petit à petit une vie sur mesure pour profiter pleinement et accomplir leurs objectifs en tout genre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck, développeur iOS chez Molotov, une application de streaming qui a révolutionné notre manière de consommer la télé. Mais il n'est pas arrivé chez Molotov comme ça, les mains dans les poches. Avec un bac plus 2, on pourrait se dire que devenir développeur iOS, c'est peu probable, mais Franck va justement nous prouver à travers son histoire qu'avec un petit peu de détermination et un plan d'action en tête, on peut très bien réussir à trouver le job de rêve. Donc si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez actuellement, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et ça nous aide à créer de nouveaux épisodes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé pour raconter son histoire sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse contact@developpeurlibre.com. Et en attendant, je vous laisse tout de suite avec ma discussion avec Franck. Salut Franck, merci d'avoir accepté l'invitation sur un nouvel épisode de ce podcast. Eh bien, comme je fais d'habitude avec mes invités, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter, de nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, et comme ça, ça nous donnera une petite base, et puis après, on reviendra sur d'où tu viens, ce que tu as fait, et pourquoi tu fais ce métier ou ces activités-là aujourd'hui.
Eh bien, c'est parfait, merci beaucoup Quentin déjà de m'accueillir, ça me fait très plaisir de partager mon expérience, parce que j'ai quelques années derrière moi et j'ai vécu des choses, si ça peut intéresser des personnes, c'est parfait. Alors du coup, je suis Franck, je suis aujourd'hui développeur iOS TVOS au sein de Molotov. Bon, je fais ça depuis bientôt 1 an, le temps passe vite. Et du coup, je suis pas développeur depuis si longtemps que ça, sur le papier, mais c'est vraiment une grande découverte de ce métier-là qui est vraiment devenu une immense passion pour moi, et je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps maintenant à ne faire que ça.
Ok. Et top, de toute façon, on reviendra hein, sur ton métier aujourd'hui chez Molotov. Est-ce que tu peux, tu nous dis que ça fait pas longtemps que tu es dans ce monde-là du code. Est-ce que tu peux nous dire un peu, revenir un peu sur tes études, qu'est-ce que tu as fait comme études, et surtout à quel moment tu as découvert ce monde du code et peut-être même de l'informatique en général?
Ok, alors j'ai un parcours qui est un peu particulier. J'avais des grandes facilités à l'école, mais l'école m'intéressait pas. Donc je mettais pas forcément beaucoup d'énergie à réussir mes études. Et arrivé au bac, je savais plus trop quoi faire. Donc j'ai un peu virevolté pendant quelques années à changer d'études. Donc j'avais tenté un DUT, service réseau de communication, qui existe peut-être plus aujourd'hui. Où du coup on faisait de l'informatique, mais ouais, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. C'était le côté pédagogue des profs qui était un peu particulier, et du coup j'ai arrêté assez rapidement le DUT. Et j'ai tenté d'autres choses dans des domaines qui m'intéressaient beaucoup, comme la photographie, une école d'ingénieur du son. Mais en fait à chaque fois j'ai dû stopper pour des raisons plus ou moins intéressante, mais voilà, j'ai arrêté jusqu'à un moment où je me suis posé, je me suis dit bon, faut que je me décide, faut que je fasse quelque chose, et du coup j'ai suivi tout bêtement mon meilleur ami en BTS informatique de gestion, et du coup coup, c'est voilà, je me suis retrouvé dans un domaine qui me plaisait bien. Je sentais que voilà, j'accrochais bien, même les cours, ça se passait bien. C'était la première fois en fait que j'arrivais dans des études où finalement ça m'intéressait. J'étais pas à y aller à reculons. Et donc les 2 années de BTS se sont plutôt bien passées. Voilà, j'ai très bien réussi mes 2 années. Mais par contre, j'avais déjà 22 ans, 23 ans même, et je ne me sentais pas de continuer, contrairement à mon ami qui, lui, a poursuivi 3 ans derrière. Donc j'ai préféré m'arrêter là et essayer de travailler directement. Et du coup, j'ai fait du code du coup pendant ces années-là, mais j'ai eu 2 stages qui sont pas, enfin, qui m'ont pas forcément épanoui dans le monde du développement.
Ouais.
Et du coup, à la sortie du BTS, je me suis dit, voilà, je vais rester ouvert à toute opportunité dans l'informatique, parce que bon, ça restait quand même assez généraliste, le BTS, même si j'étais dans l'option développeur. Et j'avais vraiment pas mis la priorité sur le métier de développeur. C'était pas du tout ma priorité. Et là, bah, effectivement, j'ai été plutôt dans un domaine qui est pas forcément connu, surtout quand on est à l'école, qui est le milieu de l'exploitation de plateformes de services.
D'accord.
C'est un métier en fait où qu'on appelle ingénieur de production, où on touche un peu à tout, quoi.
D'accord.
On fait du code, du scripting, un petit peu de code, de la base de données, du système, du réseau, voilà. C'est des métiers où on touche à tout, mais on est assez caché de tout le monde. C'est
Ok.
pas des métiers qui vont être vendus par les profs à l'école.
Ouais, tout à fait. Et donc à ce moment-là, tu voilà, t'avais déjà mis un pied dans le monde du code, mais pas du développement. Est-ce que tu as commencé à te dire, ah oui, ça devient intéressant, je commence à me projeter plus tard dans un début de carrière, ou est-ce que tu y allais toujours en traînant les pieds, en te disant, bon, est-ce que ça m'intéresse vraiment et est-ce que je vais faire toute ma carrière dedans, quoi?
Bah, là, du coup, le job que j'avais me plaisait vraiment, parce que pour le côté varié et qui, en fait, j'apprenais plein de choses. Tous les jours, j'apprenais des choses, donc j'étais vraiment super content. J'étais prestataire à l'époque dans la boîte, qui est Orange, et j'ai fait 2 ans, en fait, j'ai fait 1 an en Presta, et Orange a viré ma boîte de Presta pour en prendre une autre, mais ils m'ont demandé de revenir dans la nouvelle boîte, parce que ça se passait très bien. Et du coup, c'était un métier qui était vraiment super épanouissant. En fait, j'ai besoin d'avoir un peu un mode en permanence que mon cerveau apprenne des choses. Et du coup, c'était le cas. Là, j'y suis resté finalement 7 ans sur ce poste-là, avant d'évoluer vers du management. Donc c'était, mais j'étais, voilà, j'étais pas du tout encore dans l'optique d'être vraiment développeur, quoi.
D'accord.
Pour l'instant, j'étais bien dans ce que je faisais, dans ce domaine-là. Je me voyais bien évoluer là-dedans. Et du coup, c'est pour ça que j'avais accepté le poste de manager, parce que bah, je restais dans le secteur de l'exploitation. Et puis, ça me permettait de monter après 7 ans, passer sur le même poste, quoi.
D'accord.
Donc, entre-temps, j'ai été internalisé chez Orange aussi.
Ok. Et donc
Donc, ce qui est.
ouais, tu considères que c'est un parcours plus ou moins classique pour les études que tu as fait?
Pas du tout, parce que bon, déjà je me suis retrouvé assez bah, quasiment à la sortie de l'école sur un poste d'ingénieur, alors que j'étais pas du tout ingénieur.
Ouais.
Donc j'ai appris en fait auprès de mes collègues qui eux pour la plupart l'étaient. Et pareil, j'ai été embauché chez Orange, ce qui est extrêmement rare quand on n'est pas bac plus 5. C'est partie des petites exceptions. Et du coup, j'ai évolué, mais au-delà de ce que j'avais appris à l'école. J'ai toujours eu finalement des postes qui étaient au-dessus de mon diplôme d'origine, ce qui était un petit peu étrange au départ, parce que je ne me sentais pas forcément à l'aise avec ça vis-à-vis des collègues qui, eux, étaient tous diplômés. Et ça a été encore plus particulier quand je me suis retrouvé à manager des personnes qui étaient, elles, ingénieurs et moi qui n'étais pas du tout.
Ouais, tout à fait.
Mais
Ok. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu as changé de carrière et que tu t'es intéressé au développement? Est-ce que c'est parce que tu as découvert une nouvelle branche qui t'intéressait encore plus? Ou est-ce qu'au contraire, ta situation s'est dégradée petit à petit, ton métier t'intéressait de moins en moins?
Alors, y a des événements dans les entreprises, et surtout dans les grosses entreprises comme Orange, qui effectivement peuvent complètement chambouler une carrière. Et en fin de compte, il y a eu des réorganisations au sein de l'entreprise, particulièrement là où j'étais, qui faisaient que mon activité en fait, devait partir et ne pas rester en région parisienne. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est le moment, je vais complètement changer de voie. C'est un peu le gros avantage des gros groupes, c'est ça, c'est de se dire, voilà, j'étais dans l'exploitation, j'étais manager, et quelques mois après, je me suis retrouvé à être chef de projet marketing.
Ouais.
Donc je me suis dit, je vais arrêter la technique. J'en ai fait pendant 8 ans et demi. Je vais tenter autre chose. Voilà, je voulais m'orienter plus vers de la gestion de projet, et finalement, je me suis retrouvé plutôt proche du marketing, dans une entité en fait qui s'occupait de la distribution des applications mobiles
D'accord.
pour Orange. Et donc ils centralisaient vraiment toutes les applications Orange, donc il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en avait 500 à l'époque dans le monde. Et tout passait par cette équipe-là. Et du coup, je me suis dit, j'adore l'univers du mobile, ça peut être intéressant, je vais apprendre sûrement plein de choses. Et du coup, dans cette petite équipe, c'était pas une grosse équipe, il y avait un pôle d'expertise OS, et notamment une personne qui était côté iOS et qui s'occupait d'aider les développeurs dans les phases de développement. Il faisait aussi pas mal de POC, des choses comme ça, des tests. Il allait au WWDC. Voilà, j'ai beaucoup beaucoup sympathisé en fait avec lui, et je me suis de plus en plus intéressé à ce qu'il faisait, parce que j'étais un gros fan d'Apple depuis que j'ai 8 ou 9 ans. Et je me suis dit, mais ouais, en fait c'est super intéressant le développement iOS, pourquoi je me suis pas intéressé plus tôt? Donc là on était en 2015-2016,
D'accord.
et du coup j'ai commencé à regarder sur internet. Est-ce qu'il n'y avait pas des formations, des choses comme ça
Oui, tout à
qui
fait, ouais.
permettaient de démarrer tranquillement, et j'ai trouvé des formations sur Udemy qui étaient assez intéressantes, et c'est là que j'ai commencé à m'auto-former du coup sur le développement Swift. Ça faisait presque 10 ans que j'avais pas fait de développement orienté objet, parce que je faisais du scripting, des choses comme ça pendant des années, mais c'est un peu différent quand même. Je fais un peu de Python aussi, mais pas vraiment poussé non plus. Donc ça m'a fait vraiment revoir pas mal de concepts dans la programmation en général. Et je savais que j'avais encore toute la logique algorithmique qui était là, parce que ça, finalement, ça reste. Parce qu'on l'utilise peu importe le type de langage. Et du coup, pendant 2 ans, en fait, je me suis formé un peu tous les jours. Je faisais 1 à 2 heures de code par jour, le matin, le soir, quand je pouvais. Et je me suis vraiment. J'ai vraiment adoré ça, quoi. Là, je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, parce que c'est quelque chose, en fait, ça, je me suis dit, le métier de développeur, c'est un métier où on apprend en permanence, et c'est un peu ce que j'ai besoin. Parce que c'est vrai que le métier sur lequel j'étais là, au bout de 2 ans, j'avais fait le tour, je commençais à sentir la lassitude, la technique me manquait, et du coup, je me suis dit, peut-être développeur, faut que je tente ça. Mais chez Orange, il n'y a pas grand-chose.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup de postes chez Orange de développeurs, donc. Du coup, j'ai pas trouvé vraiment ce qui me plaisait.
Ouais.
Entre-temps, mon ami avec qui je bossais, lui a quitté Orange, pour vraiment faire du dev pur et plus être juste expert. Il voulait travailler sur un produit.
D'accord.
Et du coup, moi, j'ai continué à chercher chez Orange, parce que avec mon bac plus 2, je me suis dit, à l'extérieur, ça risque d'être compliqué, je vais galérer. Chez Orange, je suis quand même en sécurité, on va dire. Et donc, j'ai finalement été vers un poste de chef de projet technique en filiale chez OCS. donc le domaine du streaming vidéo, qui était un domaine qui me plaisait particulièrement, et je me suis dit, bon bah voilà, on va faire ça, je vais me rapprocher de la technique, je vais mettre en contact permanent en fait avec les développeurs qui étaient en fait dans des agences externalisées, et je vais être en fait leur point de contact entre les équipes produits et le développement.
D'accord.
Je serai le point central à ce niveau-là. Et du coup, bah, j'ai fait ça pendant un an. Je continue à me former en parallèle, en permanence. J'ai jamais arrêté finalement le développement iOS. Et j'ai repris petit à petit des choses, bah, la distribution des applications sur les stores, que ce soit iOS, Android, Windows. J'ai commencé à rapatrier tout ça dans mon périmètre. J'ai commencé aussi à discuter avec mes chefs parce que bah, je me rendais compte que ce qui bridait un peu la société, c'est quand même en partie que les développements étaient complètement externalisés. Et du coup, c'était un peu difficile de concurrencer les autres plateformes de streaming. Et donc, ils ont décidé de se lancer dans un gros chantier qui était de réinternaliser tous les développements dans nos locaux. Et du coup de monter une équipe de dev directement chez OCS. Et ils m'ont demandé de prendre la direction du coup de cette équipe-là.
Ok.
Donc
Top.
là, je suis passé de je veux être développeur à directement en fait être responsable de développeur.
Ouais.
Donc il manquait une petite étape entre les deux, mais du coup c'est ce qui m'a permis de me rentrer vraiment pour le coup dedans et d'en faire vraiment mon métier parce que bah, j'étais responsable au départ de l'équipe iOS Android. Et du coup j'ai participé vraiment au développement de l'app iOS et Apple TV. Ça c'était vraiment super. J'ai fait ça pendant un peu plus de 2 ans. Et bah, c'était juste le pur bonheur quoi.
Ouais,
Tous
tu
les moments en
m'étonnes.
fait où je codais, c'était super épanouissant. On codait pour fixer des problèmes pendant qu'il y avait l'épisode de Game of Thrones qui était
Ouais,
en live. Voilà, c'était
à
vraiment
fait.
super top et ça s'est bien passé, tellement bien passé finalement tout ça que bah, j'ai été promu en fait d'année en année. Et du coup, je suis passé de l'équipe iOS Android à l'équipe iOS Android, plus l'équipe Smart TV, web, back-end. Ah, petit à
D'accord.
petit, l'équipe grossissait et du coup, bah, voilà, je me suis retrouvé à avoir une équipe d'une quinzaine de personnes, mais du coup, de moins en moins de temps pour coder.
Ouais, ok.
Parce que
Et ce qui est
plus on porte de
intéressant,
responsabilité, plus c'est dur.
ouais, bien sûr.
Ouais, vas-y.
Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce que tu nous dis, c'est que on voit qu'il y a pas qu'une seule porte d'entrée pour atteindre un objectif. Là, tu nous dis que voilà, que ton objectif, c'était de rentrer un peu plus dans l'aspect technique du développement et te détacher un peu de l'aspect management. Et voilà. Tu t'es dit, ok, qu'est-ce qui me manque actuellement? Il manque des connaissances en développement iOS, en tout cas dans la checklist, hein, il y avait cet outil-là. Et donc tu as été le chercher, tu t'es formé toi-même et ça t'a permis de compléter tes compétences actuelles, parce que c'est vrai que c'était des compétences peut-être un peu moins techniques où tu gérais déjà des équipes. Et en fait, tout ça t'a permis d'atteindre plus ou moins ton objectif. Et comment s'est passé ton apprentissage? Parce que tu nous dis que tu t'es formé bah, presque tout seul, parce qu'au début c'était l'apprentissage en autodidacte, si j'ai bien compris. En dehors de tes heures de travail, et ça n'a pas été voilà, ça n'a pas été une transition qui a été faite en interne dans l'entreprise où on te propose des formations, etc., etc. Donc, comment s'est passé cet apprentissage? Tu nous as dit que ça a duré plusieurs années. Est-ce que ça a été très compliqué au début ou est-ce que tu as très vite réussi à utiliser tes compétences actuelles et les mettre en place, les translater en fait sur tes nouvelles compétences en développement iOS? Et surtout, à quel moment en fait tu as senti que tu commençais à maîtriser ce domaine? À quel moment tu t'as commencé à te dire, d'accord, je peut commencer à être légitime quand je postule dans des postes qui soient directement sur le développement ou alors manager des équipes de développeurs en iOS.
Alors, c'est une bonne question. Alors, comment ça s'est passé? En fait, assez rapidement, j'ai commencé vraiment à toucher un peu à tout au niveau des frameworks iOS. J'ai un peu tout testé. J'ai beaucoup en fait fait des toutes petites apps pour moi, pour tester vraiment toutes les fonctionnalités qui existaient. Donc je faisais ça en permanence pour ne pas perdre le rythme en fait. Je m'imposais. En fait, j'avais un peu négocié avec mes chefs de me prendre une petite heure le matin pour me former. Et du coup être aussi utile pour les développeurs externes à l'époque, pouvoir les aider un peu. Et je me suis jamais lancé dans une grosse appli moi-même ou des choses comme ça au départ. Et ce qui m'a un peu dit c'est bon, je suis capable de le faire, c'est au moment en fait où on a dû se séparer d'une des sociétés qui s'occupait d'iOS Android. Et du coup pendant 3 mois, on n'avait plus de développeur du tout. Et du coup, c'est moi qui me suis occupé de l'app iOS pendant ces 3 mois-là. Et là, je me suis dit, bah ouais, en fait, je peux faire le taf sur une app qui existe déjà. Je peux me débrouiller, je peux m'en sortir, j'arrive à faire des choses. Et jusqu'à ce qu'on recrute du coup des développeurs en plus. Et là, par contre, dans ma tête, ce qui était compliqué, c'était de me dire, ok, je suis capable de le faire ça, mais est-ce que je vais être légitime à gérer des personnes en plus qui vont probablement être plus expérimentées que moi dans le milieu ça a été un cap assez difficile à passer. Ça m'a aussi boosté à encore accélérer mon apprentissage, en allant au-delà de simplement développement iOS, mais en allant vers des concepts avancés du type clean architecture, clean code, le TDD, tout un tas en fait de compétences qui pour moi étaient nécessaires pour aussi guider l'équipe vers des meilleures pratiques que ce qui était fait, parce que du coup quand on a récupéré les codes sources des applis, on a récupéré des codes sources de 3-4 sociétés différentes. Par exemple, en app iOS, macOS et Apple TV, c'était 3 codebases complètement différents. C'était 3 boîtes qui les avaient développées. Et du coup, bah, dans les trois, il y avait des choses bien, des choses moins bien. C'était des fois un peu compliqué de travailler là-dessus. Du coup, bah, j'ai essayé voilà, de mettre en place des bonnes pratiques pour améliorer les applications actuelles, mais aussi lancer des chantiers de refacto assez conséquent, puisque les apps en fait ont été refondues sur iOS Android en 2020, sur l'année 2020, de zéro, justement en mettant en place toutes ces bonnes pratiques, donc avec du Clean Swift côté iOS. C'est le fait de devoir gérer l'équipe et d'essayer d'être le plus légitime possible pour les aider m'a forcé vraiment à apprendre d'autres choses, plein d'autres choses. Voilà, c'est ma bible, c'est Clean Code et Clean Architecture. C'est des super bouquins à lire.
Je confirme. Ok, top. Et donc justement, donc voilà, tu t'approches un peu de la technique. Tu nous as parlé effectivement d'un manque de, enfin, d'un manque de confiance en soi, où tu avais l'impression de ne pas forcément être légitime, ce qui était peut-être aussi une impression accentuée par le fait que tu travaillais avec des personnes, des profils qui avaient un bac plus 5, alors que toi, tu n'avais pas forcément le titre d'ingénieur. Donc effectivement, c'est tout à fait compréhensible et c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Mais on sent en fait que tu as voulu, au contraire, ça t'a boosté, tu nous as dit, ça t'a boosté, ça t'a poussé à apprendre un maximum de compétences et surtout à travailler sur des projets supplémentaires, que ce soit perso ou dans le cadre de ta boîte. Et on voit au final que oui, les diplômes ont une importance, mais peut-être surtout en sortie d'école, et peut-être que au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, bah, les diplômes n'ont peut-être plus vraiment de sens si on arrive justement à les accompagner d'un certain nombre d'expériences. Je sais pas ce que tu en penses, parce que moi je peux pas trop donner mon avis là-dessus, mais voilà, on sent vraiment que le diplôme a eu de moins en moins d'importance dans ton expérience.
Ben je pense c'est vrai que ça dépend un peu des personnes. Moi, je sais que je suis une personne qui n'était pas faite vraiment pour les études et j'ai été, enfin, Enfin, je me suis senti épanoui finalement quand j'ai commencé à travailler, quoi.
Ouais.
J'étais vraiment beaucoup plus heureux quand j'ai commencé à travailler. Et du coup, bah, je me suis finalement un peu formé à plein de choses dans mes différents métiers. Parce que quand j'étais parti côté projet marketing, j'ai pris des rôles aussi de product owner, des rôles de designer. Finalement, j'ai appris des choses là-dedans. J'ai lu des livres pour comprendre l'UX, l'UI, qu'est-ce que c'est. Bah, pareil pour comment faire évoluer son produit. J'ai eu plein de casquettes. J'ai eu aussi le rôle de Scrum Master chez OCS parce qu'on n'en avait pas vraiment. Donc j'ai appris pas mal de choses sur l'agilité, comment bien organiser une équipe, comment finalement créer son propre process agile adapté au milieu de l'entreprise. Parce qu'on est l'agilité, voilà, ça s'adapte un peu en fonction des contraintes de chacun. Donc c'est vrai que j'ai toujours appris plein de choses, mais surtout à partir du moment où j'ai commencé à travailler. Mais à
Ouais.
l'école, je sais que j'avais beaucoup de mal en fait à apprendre et à surtout aimer apprendre.
Ouais, tout à
Alors
fait.
que dès que c'était dans un cadre professionnel avec des objectifs précis, voilà, je savais, bah, je devais designer un workflow web. Parce qu'on n'a pas de designer dans l'équipe, je me suis dit, bon, bah hop, je vais apprendre ce que je peux sur le design. Voilà. Ça a toujours été un peu comme ça, moi.
Ouais.
Mais il y a des gens qui vont être complètement différents et qui seront super bien à l'école et du coup qui vont poursuivre leur diplôme comme il faut. Mais moi, ouais, finalement, mon appétence à apprendre des choses par moi-même est venue un peu compenser ce que j'avais pas acquis à l'école, quoi.
Ouais, tout à fait. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous dis parce que on sent vraiment en fait un esprit startup qui est assez présent dans les différentes expériences dont tu nous as parlé jusqu'à présent. Tu nous parles de Scrum, tu nous parles d'agilité, tu nous as dit également que ton chef t'avait autorisé à consacrer par exemple 1 heure chaque matin pour te former. Bon, voilà, c'est des choses qui moi personnellement me font quand même assez penser à la culture startup. Alors que tu étais dans un grand groupe. Et en fait, ce qui peut être intéressant et surtout encourageant pour des profils qui ont justement cet attrait pour la culture startup, pour le on-time learning, là tu viens de nous dire que bah voilà, vous aviez un problème dans votre équipe, personne n'était vraiment formé pour ça. Bon bah ok, on a ce problème-là, on se forme en conséquence. Et voilà, c'est vraiment un esprit startup. Que justement tu as réussi à trouver dans un grand groupe. Alors je pense que c'est surtout dû au fait que bah voilà, vous essayez un peu de monter un projet à l'intérieur de la boîte, hein. Tu nous as parlé de l'internalisation de tout ce qui était application de streaming et d'OCS, enfin du développement. Donc voilà, ce qui est, ouais, enfin, tout ça pour dire que c'est intéressant et ça peut être aussi encourageant. Pour des profils qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et l'ambiance startup, sans pour autant avoir tous les inconvénients, parce que c'est vrai qu'il y en a aussi, hein, les inconvénients dans le monde du startup. Il y a beaucoup de turnover, il y a peut-être, si on veut monter sa propre boîte, il y a peut-être aussi beaucoup de risques à prendre supplémentaires. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour faire un retour là-dessus.
Ah, c'est vrai que en fait globalement chez Orange il y a très peu d'endroits où c'est comme ça.
Ouais.
J'ai vraiment découvert ça quand je suis parti bah, voilà, dans un premier temps côté groupe, donc côté Orange mondial, quoi, où là j'étais vraiment dans une toute petite équipe qui était très particulière. Mais après, c'est vraiment en passant en filiale chez OCS où OCS était vraiment, enfin, fonctionnait en mode start-up, quoi. C'est une structure qui était assez indépendante à l'époque. Et donc, quand ils se disaient, ah tiens, il y a l'Apple TV, qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, on lance une app. Bah hop, ils lançaient une app. Ils
Ouais.
réfléchissaient pas. C'était parti, on la développait, on la mettait. Alors que ça, que dans le côté Orange un peu plus ancien, Orange France, des choses comme ça, c'est un peu différent. Et j'ai découvert vraiment ce domaine-là. Je me suis approché de la start-up en allant chez OCS surtout. Et
D'accord.
d'ailleurs, je me suis même dit à l'époque, le jour où je quitte OCS, c'est probablement que je quitterai Orange.
Ouais. Ok.
Je me voyais pas en fait retourner dans l'Orange un peu plus procédurier. Ouais, c'était quasi sûr que ça se passerait comme ça.
Ouais, bah oui, effectivement, si t'es attiré par cet aspect entrepreneurial, c'est vrai que ça reste, c'est quand même très compliqué de revenir sur la partie plus grosse du groupe, quoi. Et donc, voilà, cette expérience chez OCS, tu nous dis le jour où tu quittes OCS, c'est que tu quittes Orange. Ce jour est arrivé, bah, est arrivé déjà. Si voilà, tu nous as parlé de Molotov en début. Donc, au bout de combien de temps t'as quitté OCS? Qu'est-ce qui a fait que t'as quitté OCS et comment s'est faite cette transition entre OCS et ton nouveau job?
Alors, OCS, c'était mes plus belles années, je pense, au sein du groupe Orange. Après, le côté, c'était super cool parce que mes chefs m'ont fait confiance et du coup m'ont fait évoluer. Mais du coup, j'ai évolué presque trop vite parce qu'après, je me suis retrouvé à ne plus faire ce que j'aimais, qui était coder. J'avais beaucoup
D'accord.
plus de mal à trouver du temps pour coder. Et après est venue une nouvelle fois des réorganisations qui ont fait que voilà, mon métier était vraiment de moins en moins plaisant pour moi. Même si voilà, j'adorais mon équipe, j'ai quand même monté l'équipe de A à Z, j'ai recruté tout le monde. Mais voilà, je me suis dit, c'est pas vraiment vers ça que je voulais aller. En plus, il y avait le côté. Je suis manager, mais je sentais qu'il y avait un trou dans mon expérience. Il manquait une étape qui était vraiment être simplement développeur, sans tout le reste à côté. Je voulais vivre en fait cette expérience-là d'être juste développeur.
Ok.
Et je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à regarder en dehors, je vais regarder un peu ce qu'il y a. Après, c'est pas forcément évident de se vendre parce qu'on a une casquette de directeur. Donc les gens se disent, mais qu'est-ce que vous venez faire à postuler pour un poste de développeur iOS? On a des postes de VP Engineering, de Engineering Manager. Oui, mais non, c'est pas ça que je veux faire.
Ouais.
Donc voilà, c'était assez compliqué. Et puis en plus, c'est arrivé en plein moment du Covid. C'était encore plus compliqué. Mais voilà, je regardais, je passais quelques entretiens, je faisais des tests techniques, je me rendais compte un peu des choses qui pouvaient me manquer. Il me manquait un peu des basiques, des termes, il y a des choses je savais le faire, mais je savais pas forcément pourquoi ou à quoi ça servait. Je le faisais un peu machinalement. C'est vrai que tous les entretiens et les tests techniques, ça m'a vraiment permis de voir un peu mes petites faiblesses que je pouvais avoir et de corriger petit à petit tout ça.
Ok.
Et pour aboutir finalement à la fin, je devais être quoi, en juin, juillet 2020, à me retrouver avec deux boîtes qui voulaient me recruter et dont Molotov. Et puis du coup, j'ai choisi Molotov parce que un des services, je pense, dans les top startups en France, c'était facilement dans le top 2 de celles qui m'intéressaient le plus.
Ok.
Donc, voilà. Ce qui était marrant, c'est que les deux sociétés, c'était deux sociétés dans le domaine du streaming.
Oui, bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Molotov, c'est du streaming. Tu venais du monde du streaming avec OCS.
Ouais,
Voilà, enfin,
et du coup,
tu me dis que
la deuxième
les.
boîte qui voulait me recruter, c'était aussi du streaming.
Bah voilà, donc les deux qui voulaient te recruter, c'était du streaming. J'allais te poser la question, mais je pense qu'on a déjà la réponse. Pour toi, en quoi l'expérience que tu as eue chez OCS a joué pour le recrutement? Enfin, est-ce que tu penses que ça a joué et dans quelle mesure?
Ouais, oui, clairement joué parce que quand on commence à faire du streaming, on acquiert des compétences sur des frameworks d'Apple un peu spécifiques, tout ce qui est AV Player, qui est voilà, qu'on voit pas forcément partout. et qui est centrale dans ces applications-là. Et en plus, vu mon background où j'avais quand même des compétences dans le domaine d'Android, dans le domaine des smart TV, j'avais acquis pas mal de choses sur la partie technique player de ces technos-là qui sont complètement autres qu'iOS. Sur l'encodage aussi, sur des outils qui sont un peu utilisés dans toutes les boîtes qui font du streaming. J'avais pas mal de choses que je pouvais apporter aussi à ces sociétés-là en dehors de simplement mon métier de développeur iOS.
Ouais, ok. Et donc
Et
tu
il
nous
y
parles.
avait, ça j'oublie aussi l'aspect Apple TV.
Oui,
Parce que
bah oui.
des développeurs qui font de l'Apple TV, il n'y en a pas énormément sur le marché, donc forcément ça joue aussi. Hein.
Ouais, tout à fait. Et donc tu nous parlais d'un top, top 2, top 3, enfin voilà, un top des boîtes dans lesquelles tu aimerais travailler. Ce processus-là, est-ce que tu avais justement l'objectif de travailler dans une boîte de streaming comme Molotov? Enfin, est-ce que cet objectif-là était présent depuis longtemps, comme par exemple depuis tes études, et du coup, tu as eu tout un processus où tu t'es dit, enfin, tu as eu toute une stratégie dans laquelle tu t'es dit, d'accord, je vais commencer en vue de mon background technique, de mes études, je vais commencer dans un grand groupe pour ensuite essayer d'intégrer une partie de ce groupe qui est spécialisée dans ce domaine-là, et ensuite, je vais pouvoir intégrer une start-up qui est dans ce même domaine, où ça s'est fait assez naturellement. Et ton objectif premier, c'était le développement Apple et iOS plus particulièrement.
Non, mon objectif premier c'était vraiment d'être développeur iOS. Après, j'ai jamais eu de plan finalement qui était déjà prêt dans ma tête. Honnêtement, quand je suis rentré chez Orange, je pensais que j'allais faire ma carrière chez Orange. Je me suis dit, j'ai de la chance, j'ai un bac plus 2, je me fais embaucher chez Orange. Waouh, formidable! Et je regrette pas cette partie-là de ma carrière, mais oui, je pensais vraiment faire ma carrière chez Orange et je pensais pas quitter le groupe un jour. Par contre, c'est vrai qu'à partir de 16, je me suis dit, ouais, je me sens quand même plus à l'aise dans une petite structure finalement, où y a finalement plus de choses. Enfin, on a plus d'importance et surtout enfin, c'est pas plus d'importance, c'est plutôt on est au courant de plus de choses. On fait vraiment pleinement partie de la société, on est proche de tout finalement quand on est dans une petite boîte. Et c'est vrai que voilà, chez Molotov, je croise le CEO régulièrement, on voit tout le monde, quoi, tout le monde se connaît, c'est ce qui est assez sympa, malgré en plus la distance,
Ouais, tout à fait,
on
ouais.
arrive quand même à connaître les personnes. Et du coup, non, mon objectif premier, ça restait vraiment le développement iOS. Après, effectivement, dans mes sociétés auxquelles je rêvais dans ma tête, le streaming restait quand même dans les tops parce que c'est un domaine qui me plaît beaucoup. Donc, il y avait le
Ouais.
streaming vidéo, streaming musical, parce que j'adore les deux domaines.
Ok, top. Et ok, donc voilà, aujourd'hui développeur iOS, tvOS chez Molotov. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien? Tu nous as parlé de travail à distance. Voilà, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta journée type? C'est vrai qu'en général, on n'a pas vraiment de journée type, mais peut-être une semaine type. Quelles sont les activités que tu fais le plus, comment ton environnement de travail, etc., etc.
Alors là, on est dans un mode agile assez proche du modèle Spotify, donc du coup, on a quand même des choses qui sont à séquence régulière. On va avoir nos stand-up tous les matins à 9h40. Donc voilà, il y a des petites choses qui sont vraiment planifiées régulièrement, mais c'est vrai qu'on n'a pas des On n'a pas des contraintes avec des réunions sans arrêt comme je pouvais l'avoir avant. Donc ma journée, c'est assez simple. On se retrouve au stand-up et après, on se lance sur ce qu'on a prévu de faire dans le sprint, puisqu'on va travailler sur des sprints de 2 semaines. Donc on a quand même nos objectifs de sprint à atteindre. Mais on est organisé, on est assez libre de ce qu'on fait, surtout moi en ce moment, dans notre squad, il n'y a pas énormément d'activités côté iOS, donc on peut se consacrer à pas mal de choses technique de la refonte, du refacto. On est assez libre de notre travail, surtout en ce moment. Et on travaille beaucoup aussi en binôme. On va souvent faire un peu de pair programming, où on va réfléchir à deux sur des problématiques. Mais voilà, la journée type, après, voilà, c'est vraiment on va coder 80% du temps, quoi.
Ouais, tout à fait. Ok. Et donc tu nous parlais justement de cet aspect formation. Est-ce que c'est quelque chose qui est, alors j'allais dire autorisé, mais même plus que ça, est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place et que la société essaye de pousser?
Alors on a en fait une journée par sprint où on peut se consacrer vraiment à du travail de fond à iOS. C'est ce qu'on appelle la chapter day. On va vraiment travailler sur des sujets qui nous intéressent complètement en dehors, même si ça n'a pas de rapport avec l'entreprise, c'est pas grave. On peut poker des choses, on peut apprendre des nouveautés. C'est un peu le seul moment où on peut vraiment faire ça. Après c'est plus en dehors du travail où on va le faire, quoi. Ou alors si
D'accord.
c'est une opportunité, on a une nouvelle feature qui arrive, on sait qu'il y a une nouveauté iOS en parallèle, ça sera l'occasion de prendre le temps de monter en compétence pour apprendre cette nouveauté côté framework iOS et puis l'utiliser pour la feature, quoi. Ça,
Ouais. Bah
c'est
effectivement,
plutôt
je
poussé
pense.
pour faire ça aussi.
Ouais, tout à fait. Je pense notamment au SwiftUI. Tu nous as dit que tu as commencé à faire du développement sur iOS il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai que voilà, il y a des nouvelles technologies. On parle de l'iOS, mais je suis quasiment sûr que c'est valable dans tous les autres domaines du développement. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Au début, bah voilà, c'est des nouveautés, elles sont pas forcément mises en avant. On essaye de, voilà, on reste prudent parce que c'est neuf, ça vient d'arriver, il peut y avoir des problèmes, etc., etc. Mais assez vite, enfin voilà, moi je pense notamment à mon stage que j'ai fait aussi durant le Covid, où le SwiftUI venait de sortir depuis un an, et malgré ça, on essayait déjà, enfin voilà, nos managers nous ont dit, bah commencez à vous renseigner là-dessus, à voir ce qu'on peut faire avec, etc., etc., quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est arrivé un peu pareil aussi. SwiftUI chez nous, on l'a fait pour tout ce qui était widget, du coup.
Ouais.
Et ça a été l'occasion d'apprendre un peu comment ça marchait. Alors moi, j'étais pas là depuis longtemps. Je venais tout juste d'arriver, je pense. Mais ça a été l'occasion pour faire une formation aussi à SwiftUI. Enfin, il y a deux collègues du coup qui ont été formés et qui après ont transmis un peu les connaissances. Mais voilà, c'est dès qu'il y a une opportunité, là il y avait des petites nouveautés aussi qui sont intéressantes sur la dernière version d'iOS. Donc on est en train de creuser certains aspects sur le partage de flux vidéo.
Ouais, les
On
nouveautés
teste ça
d'iOS qui
aussi,
a... Ouais.
voilà. Chaque année, de toute façon, il y a son lot de nouveautés qui font que on va prendre un peu de temps pour apprendre et tester des petites choses, présenter ça aux grands dirigeants.
Ouais, tout à
Et
fait,
puis
et
après, si ça plaît,
c'est...
c'est parti, hein.
Ouais, bah ouais, c'est ce que permet aussi voilà, l'ambiance et l'organisation startup, quoi. C'est très léger en termes de formalité, du coup ça peut aller très vite, et on peut voilà, mettre en place des nouvelles technologies, mettre en place des nouveaux process, des nouvelles activités, etc., etc., quoi. Donc c'est vrai que ça peut être le type de boîte qui est très intéressant pour des profils voilà, qui ont envie de pratiquer, d'apprendre, comme tu nous disais, hein, toi. Un profil qui a besoin d'apprendre pour s'épanouir. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand, enfin, aussi bien pour quelqu'un qui sort de l'école, enfin, d'une formation et qui entre dans la vie professionnelle, que pour quelqu'un qui veut faire une réorientation, quoi. Ok, et donc justement, par rapport à tout ça, on parlait en début de cet épisode de l'aspect légitimité. Est-ce que c'est quelque chose qui disparaît un petit peu? Parce que, bon, voilà, maintenant, il y a eu une barrière assez... Enfin, il y a eu une fracture assez élevé, on va dire, dans ta carrière. Tu es passé carrément d'une boîte à une autre. Et est-ce que ça t'a permis de gommer un peu ce syndrome de l'imposteur?
Du coup, le syndrome de l'imposteur est revenu assez violemment à mon arrivée chez Molotov, où là, je me suis dit, oula, est-ce que j'ai bien fait? J'ai quitté Orange, je perds mon assurance vie en quelque sorte. Est-ce que je vais faire l'affaire? Est-ce que voilà, c'était pas facile au départ, surtout que moi, je l'ai pas précisé, mais en plus, je me suis retrouvé. En arrivant chez Molotov, mon lead développeur, en fait, c'est mon ancien collègue d'Orange, du coup,
Ok.
qui était parti d'Orange il y a quelques années et qui m'a donné envie, en fait, de faire ce métier. Et c'est vrai que, du coup, voilà, je suis arrivé, je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de le décevoir, quoi.
Ouais, tout à fait.
Je le connais bien, voilà, c'est en partie grâce à lui que je fais ce métier. Et du coup, voilà, c'était un peu compliqué au démarrage, mais finalement, ça s'est effacé assez vite. J'ai mes collègues, voilà, qui m'ont. Je sentais, voilà, la confiance des collègues, la bonne ambiance aussi au sein de l'équipe iOS. Voilà, ça, finalement, c'est disparu assez vite. Puis là, après pratiquement un an, je me sens. Je me sens bien à l'aise dans mon métier. Il y a toujours des petites choses, des fois, que j'apprends de mes collègues qui sont plus expérimentés que moi sur le papier. Voilà, notamment, j'ai beaucoup progressé sur toute la partie test unitaire. C'est quelque chose que je n'avais pas énormément pratiqué. On va dire que j'avais la logique, ce qu'il fallait faire, mais j'avais pas eu l'occasion de beaucoup le pratiquer. Je l'avais fait pratiquer à mes devs, mais au moment où moi j'avais plus trop le temps de coder, quoi.
Oui, tout à
Donc
fait.
c'est des choses, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont fait beaucoup progresser, et je pense que, ouais, je repasserai lead ou quelque chose comme ça, je me sentirais vraiment plus à l'aise dans mon rôle de lead que je l'étais en 2018, quand je l'ai fait côté OCS, quoi.
Ok, et c'est marrant parce que tu nous, enfin, on voit un peu, on remarque un peu une certaine répétition, un certain pattern, un certain cycle. Tu nous dis que, bon, alors c'est vrai que l'expérience chez Orange était un peu particulière parce que t'as un peu attaqué le poste par derrière, par l'autre côté, c'est-à-dire que t'as pas franchi les étapes, on va dire, classiques. Et là, en fait, tu nous reparles justement d'être développeur, ensuite lead développeur. Est-ce que c'est des objectifs pour toi actuellement? Enfin voilà, quels sont tes objectifs à moyen, court terme, que ce soit chez Molotov ou pas d'ailleurs?
Déjà, voilà, pour l'instant, je me projette vraiment bien chez Molotov, donc du coup, je pense que je peux y rester assez longtemps. Et puis, du coup, comme je me projette dans le temps, forcément, je me vois évoluer plus tard en fonction des opportunités qu'il y aura, quoi. Mais en tout cas, dans l'immédiat, je m'éclate dans ce que je fais, donc j'ai pas vocation à vouloir repasser lead tout de suite ou quoi que ce soit, quoi. Je suis super content, super épanoui dans ce que je fais, donc même si je redeviens lead que dans 5 ans, c'est pas, voilà, j'ai pas de cible, de date cible en me disant faut que je repasse lead à tel moment. Si je fais du dev pendant 5 ans, ce sera très bien, même pendant 6 ans, 7 ans, y a pas de souci. Je trouve ça génial comme métier, donc on m'en apprend tellement tous les jours que, voilà, y a pas de lassitude, quoi.
Ouais. Et puis ce qui est
C'est ça qui est
intéressant,
magique.
ouais, voilà. Et ce qui est cool, c'est que ton expérience l'a confirmé. Le jour où le développement proprement dit va te saouler, tu pourras, d'une part, tu auras les compétences pour évoluer vers des métiers plus axés sur le management, par exemple. Mais en plus, tu sais que c'est capable parce que c'est quelque chose que tu as fait et aussi quelque chose qui est tout à fait naturel pour un développeur d'évoluer vers ce genre de poste, quoi.
Ouais, exactement, je sais, voilà, si j'ai envie de le refaire, je le referai facilement, parce que ça c'est, enfin, les deux fois finalement où j'ai été manager, ça s'est très bien passé dans mon passé, pour le coup. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal dans la suite.
Ouais, carrément.
Et puis c'est vrai qu'en quittant OCS, voilà, j'ai eu beaucoup de retours super positifs des développeurs que j'ai recrutés. Sur les 2-3 années qu'on a passées ensemble. Donc voilà, je sais que j'aurai ma carte à jouer dans ce domaine-là aussi si j'ai envie d'y retourner.
Ouais, tout à fait. Ok. Bah écoute, Franck, merci pour tous ces retours d'expérience. Je pense qu'on a fait, on a fait pas mal le tour. J'ai souvent une question que j'aime bien poser à la fin du podcast aux invités. C'est quelles ressources tu aimerais partager avec les auditeurs? Alors, quand je dis ressources, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un livre, un site web, une série, un film, un podcast, une appli même, Molotov par exemple. Est-ce que voilà, il y a une ressource qui t'a inspiré, qui t'a aidé peut-être dans ton parcours, que ce soit pour le parcours vraiment développeur ou pas d'ailleurs. Mais voilà, quelque chose, c'est une question très ouverte, hein, mais quelque chose que tu aimerais partager aux auditeurs.
Du coup, moi, voilà, pour les développeurs spécialement, il faut lire Clean Code et Clean Architecture. C'est vraiment hyper intéressant pour notre métier, et peu importe en fait la stack technique sur laquelle on est, c'est hyper important de connaître ça, et ça devrait même faire partie de l'apprentissage à l'école, quoi. C'est à partir du moment où on comprend ça, c'est une philosophie de développement après.
Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que.
Je
Ouais, je confirme tout à fait ton choix, hein. Moi, c'est vrai que. Alors, les bouquins, je les ai pas lus, mais voilà, je me suis intéressé à quelques principes, surtout pendant mon stage. Et. Au-delà du fait, parce que on pourrait très bien se dire oui, mais je vais pas m'intéresser à ça, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Enfin, ça va me demander de l'investissement alors que mon application, elle marche très bien. Oui, certes, sauf qu'elle pourrait mieux marcher. Et c'est vrai que pour moi, je voudrais juste ajouter en fait que pour moi, ça a été même au-delà de l'aspect technique, quelque chose qui m'a donné confiance en moi. C'est-à-dire que maintenant, quand je veux développer une application, que ce soit à titre personnel ou que j'ai un projet, voilà, dans une boîte ou pour un client, bah, le fait d'avoir quand même un minimum de connaissances en clean code, ça me donne confiance et je me dis, bon, je ne sais pas forcément faire tout ce qu'il me demande, mais je sais comment organiser mon projet. De manière à ce que bah voilà, ce projet puisse être repris par la suite ou que je vais pouvoir aller chercher les compétences qui me manquent à droite à gauche, quoi. Ok,
Oui, exactement.
top. Bah écoute, merci beaucoup pour ton retour d'expérience et pour ces deux ressources. Donc les deux bouquins, je mettrai les liens pour les trouver sur Amazon par exemple dans la description de ce podcast. Merci encore à toi, Franck, et puis peut-être à bientôt dans un deuxième épisode, parce qu'on voit hein, bah voilà, que les carrières évoluent très vite et que y a très vite de nouvelles expériences à partager. Donc merci beaucoup à toi, et peut-être à bientôt sur un deuxième épisode du podcast.
Ben, merci beaucoup à toi aussi, et ce sera avec plaisir si j'ai l'occasion de repasser par chez toi.
Top, merci à toi, salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement ou même à partager l'épisode à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.